Alors que je m'installais ici, tout allait bien pendant les annonces jusqu'à ce que Monsieur Liddick avoue qu'il n'avait pas payé son déjeuner. Bon, ce n'est pas cela le pire. Ma femme s'est penchée vers moi et m'a dit, nous non plus. Je me suis dit, j'espère que le directeur de bar n'aura pas connaissance de cela. Je suis sûr que vous avez tous des pensées et des prières pour Monsieur Pack. Je connais bien ses allergies. Mais moi, quand j'étais enfant, je ne me souviens pas avoir souffert d'allergies comme celles dont je souffre aujourd'hui. Je ne sais pas si cela vient avec l'âge, mais je suis certain qu'il se remettra complètement, j'en suis convaincu, alors gardez-le dans vos pensées et vos prières. Bonjour à tous. Nous commençons souvent nos messages par une question pour introduire le sujet dont nous allons parler, mais aujourd'hui, je voudrais commencer par un défi inhabituel. Ne soyez pas déçus. La raison pour laquelle vous vous demandez peut-être pourquoi nous serions déçus, c'est que vous allez échouer. Vous tous. Si je participais, j'échouerais moi-même. Alors, qu'est-ce qui nous ferait échouer? Êtes-vous prêt pour le défi? Vous n'avez pas besoin de papier. Vous n'avez pas besoin de crayon. Arrêtez de penser. Vous avez ri. Ne pensez à rien. Pas de pensée. Faites le vide dans votre esprit. Si seulement vous restiez silencieux, je pourrais peut-être y arriver. C'est peut-être ce que vous pensez. Mes frères, même si je vous donnais une cinquième, une sixième ou une septième chance d'essayer de faire cela, laissez-moi vous dire ce qui se passera. Vous continueriez à penser. Vous penseriez au fait que vous n'êtes pas censé penser. Donc, que vous pensiez à ne pas penser ou que vous pensiez à ne pas penser, vous pensez toujours. Certains d'entre vous ont probablement décidé que c'était un exercice inutile et n'ont même pas essayé. À la place, vous pensez peut-être à quelque chose de plus utile. Où ai-je mis mes clés? J'ai hâte de voir Madame E après pour récupérer mes brochures. Ai-je fermé ma porte à clé? Ai-je donné à manger au chat? Combien de dégâts le chien va-t-il causer dans la maison d'ici à ce que je rentre? Je me demande quel dessert je vais prendre après le repas cet après-midi. J'oserais dire qu'on peut affirmer sans risque de se tromper que, concernant ce défi, vous avez échoué, et que vous auriez échoué de toute façon. C'est très bien. Vous savez, très tôt dans mon mariage, c'est une histoire vraie. D'ailleurs, c'est aujourd'hui notre 34e anniversaire de mariage. Au début, je lui disais souvent quand je la voyais, vous savez, perdue dans ses pensées, avec ce regard lointain, je lui demandais, à quoi penses-tu? Elle répondait, à rien. C'est vrai. Et je lui disais, personne ne pense à rien. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est, sauf les hommes. Nous sommes les seuls à posséder ce super pouvoir. Vous savez, les pratiques de méditation orientale, si vous pensez, par exemple, aux hindous, où beaucoup de gens font du yoga, je n'ai rien contre le yoga. J'ai quelque chose contre, donc j'ai quelque chose, pas rien. Et les bouddhistes enseignent aux gens à se détacher du monde physique et de la réalité en vidant leur esprit de toute pensée et de tout désir. L'idée de ne pas avoir la moindre pensée, mes amis, est absolument impossible. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le cerveau humain ne s'arrête pas de fonctionner, même quand nous dormons. En fait, d'une certaine manière, il est plus actif que lorsque nous sommes éveillés. Cela nous amène à penser, ou à espérer, que certaines personnes de notre arène politique et certains dirigeants de la société d'aujourd'hui devraient dormir beaucoup plus. Mais des études incluant l'imagerie cérébrale, vous savez, les EEG, les IRMF, si je ne me trompe pas, les TEP, montre que nous sommes toujours actifs. Nos cerveaux sont constamment actifs, même pendant la nuit. Notre cerveau ne s'éteint jamais, à moins, bien sûr, que nous soyons sous anesthésie, que nous ayons subi un traumatisme crânien, ou, en fin de compte, que nous mourions. C'est le seul moment où notre cerveau s'éteint réellement. Réfléchissez-y. Si Dieu avait voulu que le cerveau humain se vide, ne l'aurait-il pas conçu pour le faire pendant notre sommeil? Mais il ne l'a pas fait. Voici ce que Dieu pense de la version du monde de L. Il le dit en fait dans la Bible, la version du monde de la méditation. Passons au psaume 2 pour le premier passage. Je pense que vous voyez où nous voulons en venir avec le message d'aujourd'hui, mais le psaume chapitre 2. Verset 1. Pourquoi les nations, c'est-à-dire les non-croyants, s'agitent-elles, et les peuples? Maintenant, les peuples pourraient nous inclure, incluaient certainement Israël, incluaient les peuples du monde entier, et nous incluraient certainement l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. Et les peuples conçoivent des projets vains. Mais si vous vérifiez, ce mot « projet » n'y figure pas. Or, je dis souvent qu'il y a une différence entre poser une question et remettre en question quelque chose ou quelqu'un. Je sais que vous savez tous faire la différence. Si quelqu'un vous pose une question, c'est une chose. S'il vous remet en question, c'en est une autre, et Dieu remet souvent en question, dans sa parole, l'humanité. Il nous a même remis en question. En fait, Dieu attend de son peuple, de ceux qu'il a choisis, qu'il remette en question le monde, les voies du monde. Il nous demande même de nous remettre souvent en question, de nous défier, et c'est ce que Dieu fait ici. Il ne pose pas simplement une question rhétorique. Il remet en question les voies de l'homme. Cette phrase ne comporte que deux mots. Le premier mot est Aga, qui s'écrit phonétiquement H-A-G-H, et qui signifie imaginer, méditer. Eric, le deuxième mot, qui signifie vide, sans but. Maintenant, après avoir examiné les définitions dans les Écritures, je retourne souvent en arrière pour relire le passage. Et voici comment on peut le lire, tout le monde. Pourquoi les gens méditent-ils sur le vide ou sans but? Voilà une excellente question. C'est ce que Dieu se demandait. Si une personne parvenait réellement à vider son esprit de toute pensée, de quoi finirait-il par se remplir à nouveau? Exactement des mêmes choses qu'elle essayait de vider, c'est-à-dire des pensées qu'elle avait avant de passer ses 5 minutes ou ses 5 heures à prétendument vider son esprit de toute pensée, pour se détacher de la réalité. C'est impossible. Cela soulève un autre problème avec la méditation profane. En matière de méditation profane, on peut se poser la question, et ensuite, après avoir soi-disant passé 5 minutes, 5 heures ou le temps qu'il a fallu, que se passe-t-il ensuite? Quels changements réels se produisent dans la vie de cette personne? Si l'on observe les pays orientaux qui enseignent ce type de méditation, on constate qu'aucun changement durable ne s'est produit. Prenons l'exemple de l'Inde, le pays le plus pauvre du monde. Qu'est-ce que la méditation, le fait de vider son esprit, la tentative d'atteindre ce nirvana, a apporté à ces gens? Ils se sont médités jusqu'à l'extrême pauvreté, jusqu'à la saleté, jusqu'à croire que la vache est leur grand-mère. Ils méditent sur ces choses encore et encore, mais quand au véritable problème urgent, rien ne change à la suite de ce type de méditation. Il y a maintenant une autre chose qui peut facilement être confondue avec la méditation, et c'est la rêverie. Combien d'entre vous savent ce qu'est la rêverie? N'est-ce pas? Eh bien, j'ai trouvé intéressant de voir quelle est la différence. La rêverie nous éloigne de la réalité et nous emmène dans un endroit qui n'est pas réel, qui est irréel. Nous ne résolvons ni ne traitons aucun problème lorsque nous rêvassons. Par exemple, Et je tiens à le préciser, mes filles et ma femme sont ici, je ne suis pas, je le répète, je ne suis pas en train de rêvasser lorsque je suis assis à table avec mes femmes, et qu'elles parlent. Ma femme et mes filles, si elles parlent de soins capillaires, de produits pour la peau ou de taille de vêtements. Je ne rêvasse pas. Maintenant, j'avoue que je médite. Ce à quoi je pense probablement, c'est analyser ce qui vient d'être dit, peut-être formuler une réponse, et comment je vais réagir aux produits de soins capillaires dont elle parlait. Ou, plus probablement, je pense sans doute à une tâche inachevée au travail. Mon esprit s'y égare. Ils savent quand je suis ailleurs. Je pense peut-être à un projet ou à des choses que je dois faire dehors, dans le jardin. J'aimerais donc résumer la différence entre la rêverie et la méditation afin que nous puissions bien faire la distinction. Lorsque nous rêvassons, ce sont nos pensées qui nous guident. Il n'y a rien de mal à cela de temps en temps, mais en méditation, c'est nous qui guidons nos pensées. Nous réfléchissons activement. J'ai lu pas mal de passages des documents de l'Église sur la méditation pour préparer ce message, et ce qui m'a frappé, c'est ceci, nous méditons plus que nous ne le pensons. Vous méditez beaucoup. Et pour le prouver, nous allons devoir examiner la définition de la méditation donnée par l'Église. Car si vous consultez votre Oxford ou tout autre outil de référence et que vous recherchez le mot « méditation », vous verrez que de nombreux mots, différents mots hébreux et grecs, sont traduits par « méditation ». Et il existe certains mots en grec et en hébreu qui ne sont pas traduits par « méditation » mais qui s'en rapprochent beaucoup. Et ce qui est formidable avec la définition de l'Église, c'est qu'elle les englobe toutes. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'aborder aujourd'hui toutes les différentes définitions en hébreu et en grec, car la définition de l'Église les englobe toutes. J'aimerais que vous écoutiez attentivement, et si vous écrivez vite, vous pouvez noter ceci. Nous définissons la méditation comme suit. Et maintenant, tout va commencer à prendre sens. Contempler, s'attarder sur quelque chose en pensée, réfléchir sérieusement, méditer, réfléchir, se fixer un but, avoir l'intention, concevoir et planifier en tournant et retournant les choses dans son esprit. Arrêtez-vous, car il n'y a plus. Considérez, pesez le pour et le contre, réfléchir, tourner et retourner. L'un des articles dit ceci. C'est exhaustif. Chaque mot que je vous ai donné se retrouve dans tous ces mots grecs et hébreux qui font essentiellement allusion à la méditation. Passons au psaume 5. Car si c'est cela la méditation, que vous soyez jeune ou vieux, homme ou femme, une préoccupation que vous pourriez avoir concernant votre processus de réflexion, votre méditation, est la même que celle que le roi David avait à ce sujet. Psaume 5. Quelques pages plus loin. Voici une question. Ce sur quoi nous réfléchissons, et encore une fois, j'utiliserai ces mots de manière interchangeable tout au long de ce message, ce sur quoi nous nous attardons, ce à quoi vous pensez, atteint-il son but? Voilà une question profonde. Ce sur quoi vous réfléchissez, ce que vous méditez, ce qui vous intrigue, ce que vous tourmentez dans votre esprit, ce sur quoi vous vous interrogez, atteint-il ce qu'il est censé atteindre? Le roi David avait cette même préoccupation. Il l'a simplement exprimée de cette manière. Verset 1, psaume 5, verset 1, « Prête l'oreille à mes paroles, ô Seigneur, considère ma méditation. » Or, « considérer » signifie ici prêter attention, discerner, comprendre. David ne demandait pas seulement à Dieu d'écouter ce qu'il disait, mais il disait, « Je veux que tu considères ce qui se passe ici, Dieu. » Il voulait savoir ce que Dieu pensait de ce qui se passait dans sa tête. Dieu entend nos paroles, mais il prête aussi attention à ce sur quoi nous méditons pour des raisons très importantes, des raisons cruciales dont nous allons parler aujourd'hui. Dieu se soucie de ce qui se passe ici-haut, pas seulement de ce qui sort de notre bouche ou des actions que nous accomplissons. Maintenant, réfléchir à cela m'a conduite à plusieurs questions. Encore une fois, c'est ce que la parole de Dieu est censée faire. Remettre en question notre façon de penser, nous faire réfléchir, nous amener à poser des questions profondes. L'une de ces questions était, ce sur quoi nous méditons a-t-il de l'importance pour Dieu? Est-ce que je médite sur les bonnes choses? Est-ce que je médite de la bonne manière et pendant la bonne durée? Ce sont des questions que j'ai dû me poser pendant que j'étudiais et que je me préparais pour cela, car ce sur quoi nous méditons a de l'importance pour Dieu, mon frère. La manière dont nous méditons a de l'importance pour Dieu. Le temps que nous prenions ou que nous ne prenons pas pour méditer a de l'importance pour Dieu. C'est assez important. Nous le savons, vous le savez tous, et je ne vous révèle rien de très nouveau ici, mais Dieu entend nos paroles, et je suis sûr que vous l'invitez à considérer vos paroles. Dieu voit notre conduite, et je suis sûr que nous invitons Dieu à regarder, examiner et prendre en compte notre conduite. Mais qu'en est-il de la méditation? N'invitons-nous jamais Dieu à prendre en compte notre méditation, les pensées qui nous occupent l'esprit? David a demandé à Dieu non seulement d'écouter ses paroles et d'observer ses actions, mais aussi de prendre en compte sa méditation, et, bien sûr, l'invitation de David ne s'appliquait pas uniquement au psaume 5. C'était une invitation ouverte. Bien sûr, il voulait que Dieu examine ses pensées lorsqu'il a écrit le psaume 5, mais il voulait que Dieu examine ses pensées dans tous les domaines de sa vie. En est-il de même pour nous? Alors, pourquoi était-il important pour David de savoir ce que Dieu pensait de ses pensées? Pourquoi était-il important pour lui de dire, « Dieu, considère ceci, considère cela, considère ce à quoi je pense. » Pourquoi cela devrait-il nous importer? Pourquoi devrait-il nous importer ce que Dieu pense ou considère de ce à quoi vous pensez, de ce sur quoi vous méditez, de la manière dont vous méditez, du temps que vous consacrez à la méditation? Eh bien, il nous donne la réponse. Allons au psaume 19, quelques chapitres plus loin. Verset 14. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, ô Éternel, ma force et mon Rédempteur. David ne voulait pas seulement que Dieu prenne en considération sa méditation. Il était important pour David, comme cela devrait l'être pour nous, que Dieu trouve agréables les méditations de son cœur. C'est pourquoi il y accordait de l'importance. David méditait régulièrement. Extraordinaire. Il s'attardait sur les relations. Il s'attardait sur les relations amicales et sur celles qui étaient hostiles et ennemies. Il réfléchissait à ses intentions dans la vie envers ses amis. Il réfléchissait à ses intentions envers ses ennemis. Il réfléchissait également aux intentions de ses amis à son égard. Il réfléchissait aussi aux intentions de ses ennemis à son égard. Il pesait ses projets et ses actions dans la vie. Il pesait ses projets et ses actions envers ses amis, sa famille. Il pesait ses projets et ses actions envers ses ennemis. Il méditait et réfléchissait également aux projets et aux actions de ses amis et ennemis à son égard. Nous considérons le roi David comme un compositeur, mais je trouve incroyable à quel point il méditait. Regardez tous les psaumes. Ils sont le reflet de son processus de réflexion. Il y a beaucoup à apprendre de cela. Invitons-nous Dieu à considérer nos méditations? Je suis sûr que la réponse est oui. Est-il important qu'il trouve la méditation de nos cœurs acceptable? Bien sûr. Car David comprenait un principe que nous comprenons tous. Ce qui remplit notre cœur, Qu'est-ce que c'est? Cela va se manifester. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous agissons. Nous faisons des choses. La méditation façonne ce que nous disons et ce que nous faisons. Non seulement cela, mais, et soyez très attentifs ici, notre méditation influence ce que nous étudions dans la Bible et la manière dont nous le faisons. Vous n'y aviez peut-être jamais pensé de cette façon, mais ce qui se passe ici haut aura un impact sur la manière dont vous abordez votre étude de la Bible. Et votre étude de la Bible aura un impact sur ce sur quoi vous méditez. Prenons la prière, par exemple. Ce sur quoi nous méditons, ce à quoi nous pensons, c'est généralement ce pour quoi nous prions, n'est-ce pas? Et ce pour quoi nous prions nous ramène souvent à méditer sur la circonstance ou la situation pour laquelle nous avons prié. Nous jeûnons. Pourquoi jeûnons-nous? Parce qu'il y a quelque chose, un sujet qui nous préoccupe. Nous voulons nous rapprocher de Dieu afin de mieux comprendre ce qu'il attend de nous dans cette situation. Exercer l'Esprit de Dieu. Nous méditons, nous espérons et nous prions pour que Dieu utilise son Esprit afin de nous guider, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions dans notre vie. Ce sur quoi nous méditons a un impact, façonne et influence tout ce que nous faisons. Or, la méditation a un effet encore plus puissant, n'est-ce pas? Plus que de façonner, d'influencer et d'avoir un impact sur toutes ces choses que je viens de décrire. Frères et sœurs, c'est pourquoi il est vital que nous comprenions la méditation. C'est pourquoi j'avais à cœur de partager avec vous certaines des choses que j'ai apprises à partir des documents de l'Église. Et quoi exactement? Méditer sur la méditation. Et j'espère que vous verrez et conviendrez, à la fin de ce message, que la méditation est bien plus que ce que vous et moi pensons. Bon, simplifions les choses, d'accord? Il existe deux types de méditation, j'y ai déjà fait allusion. Quels sont-ils, selon vous? Ne répondez pas. Il y a la méditation acceptable et la méditation inacceptable. C'est aussi simple que cela. Et il existe de nombreux personnages bibliques que nous pouvons examiner et qui illustrent ces deux types. Nous n'allons en examiner que deux aujourd'hui, juste deux personnages. Tout d'abord, je vais revenir à la définition. Examinons, réfléchissons sérieusement, méditons, réfléchissons et repassons dans notre esprit la vie de David. Car, encore une fois, il a illustré les deux, 1 Samuel 24, 1 Samuel, chapitre 24. Tout d'abord, nous allons examiner une forme acceptable de méditation. Dans ce premier cas, David a soigneusement médité sur l'occasion qui lui était donnée de tuer Saül, sous la pression extrême de ses fidèles guerriers qui se trouvaient là-bas dans les grottes, fuyant eux aussi pour le protéger jusqu'à ce qu'il puisse monter sur le trône comme Dieu l'avait promis. Il y a donc des pressions venant de ses propres guerriers fidèles, comme nous allons le lire ici. Verset 4, 1 Samuel 24. Et les hommes de David lui dirent, « Voici le jour dont le Seigneur t'a parlé. Le voici. Voici. C'est le jour que Dieu a décrit. Voici ce que le Seigneur a dit. Voici, je livrerai ton ennemi entre tes mains, afin que tu fasses de lui ce qui te semblera bon. » Et en effet, Saül était à sa merci. Nous connaissons le récit. Mais était-ce ce jour-là? Était-ce là ce que Dieu avait prévu pour Saül à ce moment précis? Cela semblait-il bon aux yeux de David? Saül était-il réellement l'ennemi auquel Dieu faisait référence? Voici ce que David a dit à ses hommes après s'être approché furtivement du roi Saül. C'est formidable, car nous n'avons pas à deviner ce sur quoi il méditait ou non. C'est dit ici même. Ses paroles et ses actes nous révèlent ce sur quoi il méditait. Verset 6, et il dit à ses hommes, Que le Seigneur m'en préserve de faire cela à mon maître, pas mon ennemi, mon maître. Loin du Seigneur, de porter la main sur lui, puisqu'il est loin du Seigneur. David arrêta donc ses serviteurs par ces paroles. En d'autres termes, ces paroles ont incité les guerriers à s'arrêter et à réfléchir à ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Et il ne leur permit pas de se lever contre Saül. Et voici ce qui s'est passé. Saül se leva de la grotte et poursuivit son chemin. Par ses paroles et ses actes, frère, il n'a pas laissé transparaître de pensée ou de sentiment de libération face à la persécution de Saül. Ouf, enfin, je vais pouvoir me débarrasser de ce type. Nous n'avons jamais ressenti cela à l'égard de qui que ce soit, n'est-ce pas? Bon sang, je suis enfin libre. Il ne pensait pas à devenir roi à ce moment-là. Enfin, je peux arrêter de rester assis dans cette grotte, me lever et aller m'asseoir sur le trône même que cet homme occupe et dont je sais qu'il m'appartient. Il ne pensait pas cela. Il ne méditait pas là-dessus. Il aurait pu. Il ne s'inquiétait pas de ce que pensaient ces hommes. Ses amis les plus proches. Il réfléchissait aux réponses aux questions que je viens de poser. Il réfléchissait à sa relation avec Saül. Il réfléchissait à la relation de Saül avec Dieu. Sa méditation, mes frères, était acceptable, point final. Et ses actions en témoignaient. Elles suivaient le mouvement. Voici donc une équation simple. Une bonne méditation conduite à, produit des paroles et des actions justes. C'est assez simple, assez basique, mais nous voyons ce qui se passe quand la méditation est inacceptable. Passons au deuxième livre de Samuel, chapitre 11, ce même David. Maintenant, il est roi. Roi. Il aurait dû tirer parti de cette expérience, aurait dû comprendre, sous ces pressions extrêmes, qu'il fallait continuer à méditer, n'est-ce pas, d'une manière acceptable. 2 Samuel 11, verset 2, vous connaissez tous ce récit, il arriva, un soir, que David se leva de son lit et se promena sur le toit de la maison du roi. Maintenant, que pensez-vous qu'il faisait là-haut? Probablement qu'il méditait. C'était un homme qui méditait. Ça ne le dit pas. Je ne peux pas le prouver. Mais il est au milieu de la nuit. Peut-être a-t-il eu une ou deux pensées, et il a simplement voulu monter sur le toit et commencer à méditer sur quelque chose qui était important pour lui. Voici ce qui s'est passé. Et du toit, il vit une femme qui se lavait, une distraction. Et la femme était très belle à regarder. On dirait qu'il a cessé de penser à ce à quoi il pensait et qu'il a détourné son esprit vers autre chose. Et David envoya quelqu'un pour se renseigner sur la femme. On lui répondit, « N'est-ce pas la Bathsheba, la fille d'Éliam, la femme d'Uri le Hittite ?» Verset 4. Et David envoya des messagers pour la faire venir. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Si je ne me trompe pas dans ce récit, elle est enceinte. Il essaie par tous les moyens de faire en sorte qu'Uria ait couché avec elle, je pense, en fait, pour couvrir cette grave erreur qu'il avait commise. Savez-vous ce que David aurait dû faire? Retourner à ce sur quoi il méditait au départ. Il n'aurait pas dû penser une seule fois, ni même une seconde fois, à cette femme sur l'autre toit. Il aurait dû redescendre et dire, « Je dois continuer à méditer. » C'est simple. Une mauvaise méditation mène à de mauvaises actions et au péché. Une méditation et des pensées justes mènent à des paroles et des actions justes. Mais la méditation de son cœur s'était sûrement améliorée, n'est-ce pas? Eh bien, au lieu de méditer sur la manière de rectifier honnêtement cette situation déjà mauvaise, David a cédé, et il a continué à méditer. Et, comme vous vous en souvenez, dans le cadre de la définition de l'Église. Il a commencé à élaborer un plan pour assassiner Uri. Et c'est ainsi qu'une méditation mauvaise et inacceptable peut mener à des actes extrêmement horribles et maléfiques. Pensez au monde d'aujourd'hui. Je pourrais continuer encore et encore, mais, mes frères, il n'est pas le pire. Nous pouvons avoir des méditations inacceptables et acceptables. Nous le savons tous. Mais nous ne sommes pas les pires. Je peux vous l'assurer. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Rappelez-vous, j'ai dit que nous en examinerions deux. Réfléchissons à quand, et pas seulement à comment, Lucifer est devenu Satan. Vous trouverez peut-être cela intéressant, sous un angle différent de celui auquel vous n'avez jamais pensé auparavant. Ésaïe chapitre 14, verset 2, un récit que nous connaissons tous. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu, toi qui affaiblissais les nations? Verset 13. Car tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable. Je pense que vous pouvez supprimer ce mot, semblable, je serai le très haut. C'est ce qu'il a dit dans son cœur. Lucifer avait la capacité de méditer. Ce n'est pas le problème. La méditation n'est pas le problème. Il est dit, car tu as dit dans ton cœur. Dieu a donné à ses anges la capacité de méditer. Cependant, l'expression « je serai semblable à » voilà le problème, ainsi que toutes les autres phrases qu'il a prononcées, car toutes ces phrases ont été dites dans son cœur. Dans le dictionnaire Strong, cette expression « je serai semblable » signifie se considérer soi-même, s'imaginer soi-même, se faire une idée de soi-même comme étant tout ressemblante à. Frères et sœurs, Lucifer est devenu Satan au moment où il a décidé, eu l'intention, conçu et planifié de manière inacceptable à l'image de Satan, bien avant d'agir. Les gens changent avant même d'avoir prononcé un mot. Les gens changent avant même d'agir ou de faire quoi que ce soit. Lucifer a médité sur le fait de remplacer Dieu. C'est la pire forme de méditation qui n'ait jamais existé. Bien qu'il n'ait pas obtenu exactement ce qu'il avait prévu, et je vous prépare à quelque chose, il est bel et bien devenu un Dieu, le Dieu de ce monde. Satan signifie littéralement adversaire, ce qui vient d'un mot racine signifiant s'opposer, faire obstruction, agir en tant qu'adversaire. Maintenant, pourquoi est-ce que j'évoquerai ce pire de tous les exemples? Nous sommes sur le point de voir le pouvoir que possède la méditation, et je dirais qu'elle a plus de pouvoir que l'étude de vos Bibles. Certes, l'étude de vos Bibles mènera à une bonne méditation, mais plus puissante que la prière, plus puissante que le jeûne, plus puissante que le fait de façonner, d'influencer et d'avoir un impact sur ce que nous disons et faisons. Je vais vous montrer ce qu'est le pouvoir de la méditation. Proverbe 23. Proverbe 23, verset 6, un autre verset familier, un verset que nous connaissons tous, parlant d'une mauvaise personne, d'une personne malveillante. Verset 6, ne mange pas le pain de celui qui a le regard malveillant, et ne convoite pas ses mets délicats. Verset 7, car tel qu'il pense dans son cœur, tel il est. J'ai dit que la méditation accomplit quelque chose d'encore plus puissant que toutes ces choses que j'ai décrites plus tôt, les autres outils de la croissance chrétienne. Je ne veux pas exagérer, mais je ne sais pas si je le peux. En fin de compte, frères et sœurs, la méditation a un impact considérable sur qui nous sommes et qui nous deviendrons. La façon dont vous pensez aura un impact sur ce que vous deviendrez dans la vie, sur ce que vous êtes dans la vie. C'est pourquoi Paul a mis en garde les Romains et nous-mêmes, que pensez-vous, de ne pas avoir de nous-mêmes une opinion plus élevée qu'il ne convient, pourquoi? Plus nous pensons à nous-mêmes, plus nous devenons égocentriques et de plus en plus difficiles à raisonner. Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes supérieurs. Pourquoi écouterions-nous quelqu'un d'inférieur à nous? Si nous nous sommes élevés au-dessus de tout le monde, il n'y a aucune raison d'écouter quiconque est en dessous de nous. Cependant, si nous pensons à Dieu, si nous méditons sur Dieu et sur les autres, que se passera-t-il? Nous devenons plus aimants, plus bienveillants, moins égocentriques et plus raisonnables. Nous sommes disposés à écouter les gens, disposés à écouter les conseils, disposés à écouter notre conjoint, disposés à écouter notre collègue de travail, voire disposés à écouter ce qui sort de la bouche des bébés. Nous sommes disposés à écouter parce que nous ne sommes pas égocentriques. Plus nous méditons sur les choses matérielles, plus nous devenons charnels, et nous savons où cela mène. Plus nous méditons sur les choses spirituelles, et je suis sûr que de nombreux versets bibliques vous viennent à l'esprit. Par exemple, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, juste, pur, aimable, vertueux, digne d'éloge, plus nous méditons sur ces choses, plus nous devenons quoi? Si nous réfléchissons à ce que l'Épître aux Philippiens nous commande de faire, que se passe-t-il? Nous devenons simplement ce sur quoi nous méditons. Si je médite sur ce qui est vrai, je deviens un homme de vérité. Si je médite sur l'honnêteté, je deviens un homme honnête, un homme juste, un homme vertueux. Je ne vais pas dire un homme aimable, même un homme aimable, un homme digne d'éloge. Nous devenons ce sur quoi nous méditons. Satan comprend le pouvoir de la méditation. Il comprend qu'elle peut avoir un pouvoir transformateur sur les anges, sur les démons, et oui, sur les êtres humains, chrétiens ou non chrétiens. Il veut que tout le monde médite de manière erronée, sur des choses erronées, pendant trop longtemps, car tel qu'un homme pense, tel il est. Il veut que tout le monde devienne l'adversaire de Dieu, l'ennemi de Dieu. Cela ne peut commencer que par ce à quoi nous pensons, ce sur quoi nous méditons et la manière dont nous méditons. Mais apprendre ce qui est une méditation acceptable et ce qui ne l'est pas, et comprendre que nous devenons ce sur quoi nous méditons, n'est pas primordial. C'est un sujet assez important. Cela ne devient primordial que si nous comprenons ce qui suit. Passons à Ésaïe 55. Ésaïe 55. Un autre verset familier. Je ne sais pas si je vais aborder un verset biblique obscur aujourd'hui, mes frères. Ésaïe 55, 8, un verset biblique très familier. Voyons si nous pouvons le voir sous un angle légèrement différent, peut-être pour certains d'entre vous. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Car autant les cieux sont plus élevés que la terre, autant mes voix sont plus élevées que les vôtres, et mes pensées que vos pensées. Combien d'entre vous connaissent ce verset? Combien l'ont lu plus d'une fois dans leur vie? Quel est le rapport entre ce verset et la méditation? Tout. Je voudrais que vous réfléchissiez à quelque chose. Dieu n'a pas besoin d'étudier la Bible. Il est la source de toute vérité. Quelqu'un n'est-il pas d'accord? Ne levez pas la main, s'il vous plaît. Docteur Villioen, Dieu n'a pas besoin de prier. À qui prierait-il? Dieu ne jeûne pas. Il n'a pas besoin de se rapprocher de lui-même, et il n'a certainement pas besoin d'exercer l'esprit. Dieu est esprit. Frères et sœurs, la méditation est unique parmi les outils de la croissance chrétienne, car Dieu médite lui-même. Or, notre Dieu génial possède une connaissance parfaite. Il ne médite pas comme nous pour apprendre, comprendre ou prendre des décisions sages. Il a une connaissance parfaite, mais Dieu réfléchit. Dieu a des desseins. Dieu a des intentions. Dieu conçoit. Dieu planifie en faisant tourner les choses dans son esprit. Il réfléchit. Il pèse le pour et le contre. Voici quelque chose qui mérite d'être médité, et c'est une source d'. Dieu ne se contente pas d'énoncer un fait ici. C'est un fait noble, une vérité noble. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Mais il invitait Israël à faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce donc? À penser comme lui. C'était une invitation, pas seulement une constatation. C'est une invitation qui nous est adressée, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant les invitait, tout comme il nous invite, à penser comme lui. Vraiment. Je me demande pourquoi il ferait cela. Voyons voir. Peut-être Proverbe 23, car tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Dieu sait que s'il parvient à amener un peuple à penser comme lui, quoi? En fin de compte, ils deviendront comme lui. C'est cela. C'est le pouvoir de la méditation. C'est primordial. Le chapitre 2 de Philippiens résume bien cela. Je ne peux pas aborder ce message sur la méditation sans examiner l'exemple du Christ. Je n'ai probablement même pas besoin de vous demander d'ouvrir votre Bible à ce passage. Vous le saurez. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ si nous réfléchissons profondément, si nous méditons sur ce passage familier de l'Écriture, il révèle les pensées du cœur de Christ dans les versets suivants. Il s'est humilié. Contrairement à l'esprit de Satan, qui pensait « Je m'exalterai », Christ a dit « Je m'humilierai ». Christ s'est dépouillé de sa réputation. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Frères et sœurs, nous sommes engagés dans cette voie jusqu'à la mort ou jusqu'au royaume, dont nous croyons qu'il vient. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la méditation? L'Esprit du Christ. C'est très puissant. Une méditation à l'image du Christ produit des attitudes à l'image du Christ. Des attitudes à l'image du Christ produisent une conduite à l'image du Christ. Une conduite à l'image du Christ produit des disciples à l'image du Christ, et les disciples à l'image du Christ sont des fils et des filles de Dieu. Voilà ce que la méditation peut produire. À quel point la méditation est-elle essentielle? Elle l'est plus que nous ne le pensons. C'est apprendre quoi et comment penser comme Dieu en Christ. Voilà ce qu'est la méditation, bien plus que je ne l'avais jamais imaginé. Donc, si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine, choisissez-en un. Vous voulez réussir dans votre mariage, dans votre rôle de parent, à l'école, dans vos relations, avec vos collègues de travail, avec vos amis proches, avec vos meilleurs amis, avec les personnes qui vous intéressent plus qu'un simple ami, avec une personne, dans vos loisirs, dans ce que vous faites pendant votre temps libre, dans votre carrière. Si vous voulez réussir dans ces domaines, vous devrez apprendre à méditer comme Dieu, à penser comme lui. Retournez la médaille. Si vous voulez éviter l'échec, les erreurs, les offenses et le péché, vous devez apprendre à penser comme Dieu. C'est ce que permet la méditation. Et il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour y parvenir. Ecclésiaste 7. Continuons. Numéro 1, voici ce que nous pouvons faire. Tout d'abord, nous devons prendre le temps d'être seuls avec nos pensées. Cela peut sembler simple, mais c'est l'une des parties les plus difficiles de tout cela. Tout d'abord, nous devons prendre le temps d'être seuls avec nos pensées. Dieu veut que nous prenions le temps de réfléchir profondément. À quoi? Nous y viendrons, d'accord. Mais qu'est-ce qui pourrait bien nous en empêcher? Examinons cela d'abord. J'ai été stupéfait par cela. Voici ce que Salomon a observé il y a près de 3000 ans. Je suis prêt à encaisser les coups. Verset 29. Voici, je n'ai trouvé que ceci, Dieu a fait l'homme droit, mais, voilà ce mot de trois lettres que l'on trouve dans la Bible, mais ils ont cherché de nombreuses inventions. Maintenant, quelqu'un devine-t-il où je veux en venir quand il s'agit de prendre le temps de méditer avec Dieu? Salomon a observé il y a 3000 ans ce avec quoi nous luttons encore aujourd'hui. Nous cherchons constamment des inventions pour nous divertir. Pensez-y. Le silence semble gênant. Je veux dire littéralement maintenant. Mais le silence peut sembler gênant. Nous sommes une société qui se sent mal à l'aise quand il n'y a pas de bruit autour de nous ou quand il ne se passe rien. L'attente semble irritante. Combien d'entre vous s'énervent lorsqu'ils font la queue et qu'il y a deux ou trois personnes devant vous, ce qui rend l'attente vraiment, vraiment pénible? Que pourrions-nous faire pendant ce temps-là au lieu de nous énerver? L'ennui, oh, c'est insupportable. Maman et papa, je m'ennuie. Si jamais j'avais dit cela à mes parents, oh, ils m'auraient vite montré comment me débarrasser de l'ennui. J'entendrai ce tiroir du haut de l'ouvrir. Oh, tu t'ennuies. Oh, attends. Je vais dehors. Je vais aller jouer avec un bâton. Bien, bon choix, fiston. Nous devons remplir chaque moment de calme avec du bruit. Aujourd'hui, nous avons le divertissement à portée de main. Pas seulement une télé, nous avons des télés, des téléphones, des ordinateurs avec des applications de streaming et des jeux. On peut. Je crois que j'ai bien compris, je verrai bien nourrir des jeunes. On peut faire du death scroll. J'ai bien dit. Non, ce n'était pas cela. Ce n'est pas comme cela qu'on dit. On me fait signe que oui. Bon, ne me le dites pas, d'accord? Laissez-moi juste savourer cette gêne pour l'instant. Je ne sais pas comment cela s'appelle. Je n'étais pas loin. On passe d'une vidéo à l'autre pendant des heures. Disons-le ainsi. On peut passer des heures à passer d'une vidéo à l'autre. On regarde des séries télévisées en rafale. Le sevrage est bien réel, mais vous n'en mourrez pas, mes frères. Ne vous inquiétez pas si vous manquez ces trois épisodes après en avoir regardé 10. Mais il ne m'en reste plus que 3. Ne vous inquiétez pas, vous n'en mourrez pas. Lamentation 3. Vous voulez parler des commandements de Dieu? Je sais que nous voulons tous obéir à Dieu, non seulement à ses commandements, mais aussi à ses exigences. Lamentation 3. Voici ce que Dieu dit au sujet de prendre le temps de méditer. Lamentation 3, verset 29. Il parle ici de l'homme. Verset 29. Il s'assoit seul et garde le silence parce que lui, Dieu, parce que Dieu, l'a imposé sur lui. Or, la Bible amplifiée m'a été très utile. Voici comment la Bible amplifiée le formule, qu'il s'assoit seul dans l'espoir et garde le silence, car Dieu l'a imposé pour son bien. Une version le traduit par « parce que Dieu l'exige ». C'est ce qu'il essaie de communiquer. Dieu exige que nous nous asseyions seuls. Vous savez ce que cela veut dire? Pas de conjoint, pas d'amis, pas d'enfants. Certains d'entre vous en sont soulagés. Pas d'animaux de compagnie, pas de télévision, pas de téléphone portable et pas d'ordinateur. Mais monsieur Alcon, vous m'écrasez. Des études ont montré que les gens ont du mal à se concentrer sur une seule chose pendant plus de 2 minutes. Vous y croyez? J'ai été choqué, puis je me suis dit, attendre un peu, je ressemble peut-être à cela. Savez-vous ce que vous devez faire? Allez à la fenêtre et regardez dehors, ou sortez peut-être. Si vous allez vous promener, ce n'est pas une marche rapide. C'est une balade tranquille. Et quand vous faites cela, concentrez-vous sur une seule chose, une seule. Ne laissez pas votre esprit changer de sujet. Paul a averti les Romains de ne pas méditer ou s'imaginer plus élevés qu'ils ne le sont. Il a dit aux Corinthiens, abattez toutes les imaginations. Combattez les forteresses. Où sont les forteresses? Dans l'esprit. Amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Appliquez cela à la méditation. Lorsque des pensées tentent de s'infiltrer, arrêtez-les, abattez-les. Lorsque votre imagination commence à vous échapper, mettez-la en captivité. Mettez-la de côté. Revenez à vous concentrer sur une seule chose. C'est difficile. Ce n'est pas facile, frère, à faire. Cela demande de la pratique. Alors commencez petit. Voici un conseil. Commencez par réserver deux moments dans la journée, deux moments, un le matin, peut-être un l'après-midi. Peut-être au travail pendant votre pause. Peut-être avez-vous une pause de 15 minutes. Peut-être avez-vous une heure pour déjeuner. Le matin. Adaptez vos emplois du temps, prenez le temps, et peut-être 5 minutes le matin. Maintenant, certains d'entre vous pensent peut-être, eh bien, je médite plus que cela. Eh bien, super. Tant mieux. Pour ceux d'entre nous qui ne le font pas, commencez par 5 minutes le matin et l'après-midi. Réglez un minuteur. Peut-être avez-vous une montre. Peut-être n'en avez-vous pas, et vous pouvez estimer le temps. Mais voici la clé. Demandez à Dieu de vous aider à penser comme lui sur ce sujet et de vous aider à rester concentré sur ce sujet. Et quand vous avez terminé, quand le minuteur sonne, vous avez fini, et remerciez Dieu de vous avoir aidé à y parvenir parce que vous voulez penser davantage comme lui. Et au fil du temps, augmentez progressivement ce temps. Peut-être passerez-vous de 5 minutes à 10 minutes, puis de 10 minutes à 15 minutes, mais concentrez-vous uniquement sur une seule chose. C'est une réflexion ciblée. Peut-être s'agit-il de quelqu'un qui traverse une épreuve. Peut-être s'agit-il de quelque chose que vous vivez vous-même. Peut-être s'agit-il d'un problème au travail. Peut-être s'agit-il d'un problème relationnel. Peut-être s'agit-il d'une erreur que vous avez commise, et nous y reviendrons, mais concentrez-vous sur cette seule chose. Mais ce n'est pas tout. Psaume 4. Très rapidement. Psaume 4. Une fois le matin, une fois l'après-midi, réglez le minuteur. N'arrêtez pas de méditer avant que le minuteur ne sonne, ou n'arrêtez pas de méditer sur cette seule chose avant d'avoir regardé votre montre et constaté que ces 5 minutes sont écoulées. Et vous, peut-être, vous vous direz au bout d'un moment, non, je veux y consacrer encore quelques minutes sur ce sujet. Et cela va grandir, et cela va grandir, et cela va grandir. Ça pourrait concerner votre mariage. Ça pourrait concerner vos enfants. Ça pourrait concerner n'importe quoi. Psaume 4, verset 4, craignez et ne péchez pas. Comment faire cela? Médite dans ton cœur sur ta couche et reste tranquille. La nuit, bien sûr, est probablement le moment le plus facile et le plus propice à la méditation. Nous pouvons passer en revue la journée. Nous pouvons réfléchir et méditer avant la prière, voire après la prière. Maintenant, il y a une mise en garde que je voudrais vous donner à ce sujet concernant la nuit. Mais David dit de méditer dans notre cœur sur notre couche. Si vous avez un conjoint, Attendez. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je médite. Laisse-moi 5 minutes. Je prie. Attendez que les lumières soient éteintes. Attendez d'entendre son ronflement, je veux dire, son sommeil, puis commencez à réfléchir. Essayez de choisir un sujet positif. Il n'est pas nécessaire que ce soit toujours un sujet négatif. Savez-vous ce qui vous attendra demain au réveil? Le même problème auquel vous vouliez réfléchir le soir. Il n'y a rien de mal à passer parfois une nuit blanche, à réfléchir à un problème qui doit être résolu. Il n'y a rien de mal à cela. Je dirais que la grande majorité du temps, pensez à quelque chose de positif. Concentrez-vous là-dessus pour que cela ne vous empêche pas de dormir, et assurez-vous de ne pas vous endormir. Combien d'entre vous se sont endormis en lisant leur Bible? Ne vous endormez pas en méditant. C'est pourquoi il faut commencer petit. Alors, que pouvons-nous faire? C'est le deuxième point. Quand on prend le temps, c'est ainsi qu'on médite. Excusez-moi. C'est le premier point. Prenez le temps de méditer. Numéro 2. Maintenant, ce sur quoi nous méditons a de l'importance. Ce sur quoi nous méditons a de l'importance. Passons à Agé chapitre 1. Ce sur quoi nous méditons a de l'importance. Agé. Le prophète Agé. Qu'a-t-il à dire sur la méditation? Agé chapitre 1, verset 5. Maintenant donc, ce n'est pas simplement, vous savez, maintenant donc, Dieu a dit. Maintenant donc, ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas simplement un récit. C'est ce que Dieu ordonne. Ainsi parle le Seigneur. Quels sont les mots suivants? Le Seigneur des armées, examinez vos voies. Examinez vos vies. Le même mot, examinez. Méditez sur. Vous avez semé beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous n'avez pas assez. Vous buvez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous vous habillez, mais vous n'avez pas chaud. Et celui qui gagne son salaire le met dans une bourse percée. Je n'ai pas assez. J'ai l'impression de ne jamais en avoir assez. J'ai des difficultés financières. J'ai des dettes. J'ai ceci. J'ai cela. Eh bien, ainsi parle le Seigneur des armées, examinez, méditez sur vos voies. Méditez sur votre vie. Bien sûr, cela est une application prophétique, mais qui oserait prétendre que Dieu ne veut pas que nous examinions nos voies? Examiner signifie littéralement se concentrer sur, réfléchir profondément à, évaluer soigneusement. Oh, nous revenons à la définition de l'Église. Tout cela relève de la méditation. Dieu veut que nous utilisions le temps que nous réservons pour réfléchir profondément et évaluer soigneusement quoi? Les circonstances de notre vie. Les situations, les décisions que nous avons prises. Les décisions que nous sommes sur le point de prendre. Les décisions que nous prendrons. Les relations. Les relations que nous avons eues dans le passé. Les relations que nous avons actuellement, et peut-être une relation qui est en train de se développer. Les réactions que nous avons eues, que nous avons actuellement. Les actions que nous avons entreprises, que nous entreprenons ou que nous avons entreprises, et tout simplement la direction que prend notre vie. Quelle direction allons-nous prendre dans notre vie? En tant que chrétien, c'est crucial. Et cela ne nous est pas étranger, car nous venons de passer la saison de la Pâque. La première Pâque est, pour certains, la deuxième Pâque. Nous avons examiné nos voies. Cela ne nous est pas étranger. Qu'avons-nous appris pendant les jours des pains sans levain? Pendant les jours des pains sans levain, nous avons appris, nous avons médité, Nous avons réfléchi aux moyens d'écarter de nos vies les mauvaises attitudes, les pensées inacceptables et le péché. Ce verset nous dit d'examiner, de réfléchir à cela, à nos efforts pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Revenez-y et relisez-le attentivement. Savez-vous ce que cela me dit lorsque j'y médite? Cela dit, examinez vos voies. Cela parle de nourriture. Cela parle de boisson. Cela parle de vêtements. Cela parle d'argent. En d'autres termes, de la vie quotidienne. Dieu veut que nous méditions sérieusement et que nous évaluions ce que nous faisons et comment nous faisons toutes ces choses, afin que nous puissions nous améliorer dans tous ces domaines. Ce que nous mangeons, HMM. Ce que nous buvons, HMM. Dieu se mêle de tout. Dieu, considère ma méditation. Ce que nous portons, HMM. Il veut que je ressemble à un ambassadeur, et j'ai l'air d'un clochard. Je ne plaisante pas. Je suis juste, je ne pointe personne du doigt. Je ne vais regarder personne. Je ne veux pas qu'ils pensent que je parle d'eux. Tout le monde me regarde. Ne me regardez pas, monsieur Hook. Mes problèmes d'argent, oh, vous voulez que je réfléchisse à cela aussi? Comment je gère cela? Oh, oui. Je veux savoir ce qui se passe ici à propos de toutes ces choses. Frères et sœurs, il y a un moment et un lieu pour réfléchir à ces choses. Nous devons les créer. Donc, méditer sur nos vies, c'est la première chose. Voici la deuxième. Qu'est-ce que cela pourrait bien être? Dieu veut que nous méditions sur nos vies. Qu'est-ce que cela pourrait être? Après avoir pris le temps, il nous dit de méditer sur nos vies. Qu'est-ce que cela pourrait bien être? Josué chapitre 1. J'aime beaucoup ce passage. Josué est un exemple extraordinaire de service, de fidélité et de loyauté. Il nous offre tant de grandes qualités. Verset 8. Josué 1 verset 8 « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. » Frères et sœurs, Dieu nous a fait part de ses pensées afin que ceux qu'il a appelés puissent devenir des êtres divins à son image. La Bible, voilà quelque chose de puissant. La Bible contient des réflexions sur ce qui compte pour lui. Ce livre nous révèle ce qui occupe l'esprit de Dieu. Vous n'avez pas à vous poser des questions. Ainsi, si une partie de ce qui est contenu ici ne nous intéresse pas, alors nous affirmons que nous ne nous intéressons pas à ce que Dieu en pense. Si cela nous révèle qui est le Père, cela compte pour lui, donc cela compte pour moi. Or, c'est important pour moi et c'est important pour l'humanité, mais le fait que ce soit important, et les implications que cela comporte, sont distincts du fait que cela compte pour nous. Je peux en voir l'importance, mais est-ce que cela m'importe? S'il s'agit de prophétie, quelle part de prophétie y a-t-il dans cette Bible, mes frères? Alors, j'ai de la méditation à faire, car cela compte pour Dieu. Cela intéresse le monde. C'est important pour le monde. Ils ne le savent pas. C'est important pour nous, car nous y jouons un rôle, mais est-ce que cela nous importe? Y réfléchissons-nous? L'acceptons-nous, avec toutes les autres choses? Ainsi, le deuxième point majeur sur lequel méditer, et c'est là que la méditation à la manière de Dieu surpasse l'approche du monde. Lorsque nous méditons sur nos vies, ce que nous devons faire, ce que nous sommes tenus de faire, nous venons d'en parler contrairement au monde, nous devons simultanément méditer sur la vérité de Dieu et voir comment les deux s'articulent. On ne peut pas les faire séparément. Si on le fait, notre méditation ne sera pas efficace. Dieu n'a pas dit à Josué d'étudier sa Bible jour et nuit. Il faut bien sûr étudier la Bible pour y méditer. Son conseil n'était pas qu'il devait prier jour et nuit, ni jeûner sans discontinuer. Cela aurait été néfaste. Il serait mort. Il lui a dit de méditer sur ses lois jour et nuit. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu savait que 40 années pleines d'échecs et de succès, de déceptions et de satisfactions, de bonnes et de mauvaises choses l'attendaient. Et pour l'aider à traverser tout cela, pour nous aider à traverser tout cela, il a dit, « Médite sur ma loi. » Chaque circonstance et chaque situation qui sont importantes, assure-toi de méditer dessus, mais assure-toi aussi de méditer sur ma loi. Dieu n'allait pas envoyer un ange, ou un père, à chaque fois que Josué rencontrait un problème dans sa vie. Il ne le fera pas pour nous, il ne le fera pas pour moi. Il nous donne donc sa loi et nous dit, « Examinez vos voies et examinez ma loi. » Je voudrais partager un bref exemple, ou plutôt quelques exemples qui résument tout cela. Comment nous pouvons méditer pour prendre le temps, évaluer notre vie et nous appuyer sur la parole de Dieu? Passons au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. J'hésite parfois à utiliser des exemples personnels, mais j'espère que vous pourrez faire le lien avec un exemple de votre propre vie. Vous savez, parfois, notre emprise sur la vie peut nous échapper, mes frères et sœurs. Nous pouvons parfois nous retrouver en chute libre juste au moment où nous atteignons le sommet. Je suis sûr que vous pouvez tous penser à des moments où cela s'est produit. Tout était sous contrôle, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Nous nous sommes entraînés et, pourtant, nous avons perdu. J'ai répété sans fin, et j'ai quand même tout raté. J'ai étudié de toutes mes forces, et j'ai quand même échoué. J'ai travaillé très dur et je me suis concentré, mais j'ai commis des erreurs. La promotion ou le poste était assuré, j'ai travaillé dur, alors pourquoi ont-ils donné le poste à quelqu'un d'autre? Romains 8, verset 28, un autre verset familier, et nous savons, mais nous en souvenons-nous, méditons-nous sur le fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous savez, alors que j'étais à l'église, j'ai été embauché par une entreprise dont le siège social se trouvait à Columbus, dans l'Ohio, et Dieu m'a aidé à devenir l'un des meilleurs éléments. J'en suis profondément convaincu. Ma femme pourrait en témoigner, et le but, encore une fois, n'est pas pour moi de me vanter, c'est simplement pour vous montrer à quel point ce verset peut s'appliquer de manière si large, mes frères, alors que je réfléchissais à ma vie et que je méditais sur la parole de Dieu ici. Et encore une fois, ce n'est pas pour me vanter, mais à moi seul, j'ai aidé l'entreprise à gagner 10% de parts de marché dans une ville où je travaillais, en très peu de temps, passant d'un faible pourcentage à 10%. Et ils m'ont demandé de former d'autres personnes, de les aider à surmonter leurs difficultés et à commencer à réussir elles aussi. Eh bien, tout à coup, le responsable a été licencié. J'étais là depuis près d'un an, et ils m'ont dit, « Car, cela te dérangerait de prendre la relève. On aimerait que tu diriges le bureau. » Et je l'ai fait pendant 2 semaines, n'est-ce pas? Ou presque. C'était juste une période de transition, car j'étais l'un des candidats. Il devait, tu sais, publier l'offre au sein de l'entreprise et donner à d'autres personnes l'occasion de passer un entretien. J'ai passé l'entretien. L'entretien, spectaculaire, aucun problème. En fait, ils m'ont parlé comme si c'était « Hé, continue à faire ce que tu fais », ce genre de choses. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. Il s'est avéré qu'ils ont embauché l'ami de l'ancien responsable qui était là, et il n'avait jamais travaillé dans ce secteur, ni pour cette entreprise. Bon. Rire. Je ressens une vive émotion en ce moment, de la colère, n'est-ce pas? C'est normal. Et pendant que j'essayais de digérer tout cela, ce verset m'est venu à l'esprit. Toutes choses concourent au bien. Et j'ai réalisé que c'était mon attitude et mes émotions sur lesquelles je devais travailler. Parce que Dieu voulait accomplir quelque chose de plus grand dans ma vie que ce poste. Et juste au moment où je commençais à m'en sortir, où je travaillais sur mon attitude, où je me remettais au travail, en oubliant tout cela, et où j'aidais les autres qui en avaient besoin, une société d'ingénierie m'a appelé quelques jours plus tard, m'a appelé et m'a dit, « Nous aimerions vous rencontrer pour un poste au sein de notre division fédérale, pour diriger notre division fédérale. » Et en moins d'une semaine, j'étais embauché, et ils m'offraient un salaire de base supérieur d'un tiers à ce que je gagnais alors. Et ils m'ont accordé 3 semaines de congé pour couvrir tous mes jours fériés. C'était un domaine dans lequel j'avais déjà travaillé. Et pour vraiment me compliquer la vie, je devais faire l'aller-retour à Washington, DC, en jet privé. C'était dur. Rire. Mais il s'est alors produit quelque chose d'inattendu. Avant mon premier anniversaire dans cette entreprise, le siège social m'a demandé si je voulais quitter ce poste pour venir travailler ici pour environ la moitié de ce que je gagnais, soit moins que ce que je gagnais dans mon emploi précédent. Et cela a été la décision la plus facile que j'ai jamais prise. L'une des plus faciles. Chérie, c'est notre anniversaire aujourd'hui, donc cela a été une décision facile aussi quand elle m'a demandé de l'épouser. Rire. C'est ma version. Et c'était la décision la plus facile. Mais je savais que ce serait la plus difficile à mettre en œuvre, car nous avions encore 4 filles à élever. Et alors que je réfléchissais à tout cela, devinez quel verset m'est venu à l'esprit. Le même. Et vous savez ce que j'ai réalisé? Que toutes choses concourent au bien. Pas seulement les mauvaises choses, mais aussi les bonnes. Dieu voulait me préparer quelque chose d'encore meilleur. Et j'ai accepté avec joie. C'est ce que fait la méditation sur la vie et la parole de Dieu. Des changements en moi étaient nécessaires. Je les ai opérés, même dans les moments difficiles, et même dans les moments heureux. Car Dieu ne se contentera pas d'utiliser les épreuves et les tests, il utilisera aussi les succès et les progrès pour voir si nous méditons sur notre vie et sur sa parole, si nous prenons les bonnes décisions et si nous continuons à penser comme lui. Si vous avez été rejeté ou trahi par quelqu'un, des sentiments de rejet, de confusion et de trahison peuvent s'installer. Ensuite, il faut faire face à la tristesse et à la dépression, ou peut-être à la colère et à l'amertume envers cette personne, envers quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un dans qui vous aviez une confiance totale et qui a trahi cette confiance. Vous pourriez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où ai-je échoué? Qu'aurais-je pu faire de mieux? Pourquoi ne suis-je pas assez bien? Tout cela ne fait que nous faire revivre la blessure et la douleur. Nous méditons donc sur la parole de Dieu pour interrompre ses pensées, pour faire face à ces événements douloureux. Et puis je me souviens d'Ésaïe, et je ne m'y attarde pas exprès, car tout ce que vous avez à faire, c'est de méditer sur la parole de Dieu. Je l'ai lu. Je sais ce que dit Ésaïe. Il est écrit, « Christ serait un homme de douleur, habitué à la souffrance, car il était méprisé et rejeté, et j'ajouterai, trahi. » Et l'Évangile rapporte qu'il a été méprisé par sa famille, rejeté par son propre peuple et trahi par l'un de ses amis les plus proches. Savez-vous ce que cela me fait penser? Si je suis rejeté et trahi par les autres, je suis en excellente compagnie. Et puis mon esprit pourrait se tourner vers les frères, passés et présents, qui ont subi le même rejet, la même trahison. Et maintenant, je ne suis pas seulement en excellente compagnie, je suis en compagnie d'un grand nombre de personnes qui ont subi la même chose. Mais ma méditation ne s'arrête pas là, Romains 12. Car maintenant, alors que la blessure, la douleur, la colère et le questionnement sur moi-même s'estompent, je me demande, que puis-je faire? Romains 12, verset 19. Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance. Oh, et c'est là que je m'arrête et que je commence à méditer. Cette personne qui m'a trahi, qu'elle attende que Dieu exerce sa vengeance. Oh, quand elle sera consumée dans les temps de feu, là, je dois continuer à lire. Malheureusement, la phrase n'est pas terminée. C'est moi qui rendrai, dit le Seigneur. Oh, voilà. Attendez. C'est pourquoi, si ton ennemi qui t'a rejeté ou trahi, j'ai ajouté cela, afin, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Quoi? Car en agissant ainsi, il attire le feu sur ses têtes. Ne te laisse pas vaincre par le mal, ni par les mauvaises pensées, ni par les mauvaises méditations, mais surmonte ce mal par de bonnes méditations. Et maintenant, mon esprit commence à réfléchir à la manière dont je peux chercher des occasions, pas nécessairement des grandes, cela peut être des choses très simples, pour aider cette personne qui m'a trahi. Ce manager qui n'avait rien à faire dans ce bureau, comment puis-je l'aider à réussir? Comment puis-je continuer à aider les gens? Pensez aux personnes dans votre vie qui vous ont fait cela. La vengeance appartient à Dieu. Concentrons-nous simplement sur le fait que nous devons trouver des occasions de les nourrir, de leur donner à boire et de leur faire du bien. C'est ce que la méditation peut accomplir. Verset 14 en haut. Continuez à méditer sur ces circonstances. Bénir, cela signifie parler en bien d'eux. Louer, quoi? Je dois parler en bien de cette personne qui m'a trahi. Il y a quelque chose de bon chez elle. Ceux qui vous persécutent, bénissez-les et ne les maudissez pas. Ce mot maudire signifie exécrer. C'est clair comme de l'eau de roche maintenant, n'est-ce pas? Exécuter, je ne savais même pas ce que cela signifiait avant de lire la définition. Cela signifie ressentir ou exprimer une grande aversion pour. Parfois, nous pouvons détester les personnes qui nous ont le plus blessés. Et Dieu dit de ne pas les maudire. Ce christianisme, c'est difficile. Personne n'a dit que ce serait facile. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Ici, au verset 15, il est écrit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Il n'y a pas de condition. La vie de quelqu'un va bien. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas envieux. Réjouissez-vous avec eux. Ah, mais seulement quand je me sens joyeux ou d'humeur à le faire, non. Réjouissez-vous même quand vous n'avez pas envie de vous réjouir. Soyez tristes s'ils sont tristes. C'est facile à faire avec nos amis. Quelle récompense y a-t-il là-dedans? C'est difficile à faire avec ceux qui nous ont trahis, rejetés ou méprisés. La famille, les amis, les plus proches. Tout cela, frères et sœurs, s'inscrit dans le contexte du verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu ne veut pas que nous vivions comme le monde. Comment transformons-nous nos vies dans tous les domaines? Jeunes, personnes âgées, hommes, femmes. Nous enseignons à nos enfants à lire la Bible, à faire des leçons bibliques. Nous enseignons à nos enfants à prier. Leur apprenons-nous à méditer, afin qu'ils puissent commencer à penser comme Dieu? Et vous, les parents? Les amenons-nous à réfléchir sur leur, pas seulement sur leur vie, mais aussi sur celle des autres, et à méditer sur la parole de Dieu pour voir comment tout cela s'articule. Commencez doucement, mais savez-vous ce que vous produisez? Des êtres à l'image de Dieu. En faisant cela, en prenant le temps de méditer dans nos vies, et en utilisant la parole de Dieu pour nous aider dans toutes les circonstances, voici ce qui se passe. Plus nous réfléchissons, plus nous contemplons, plus nous pensons sérieusement, plus nous avons des objectifs, des intentions, des projets et des plans à l'image de Dieu, moins nous perdrons de batailles dans la vie. Je veux que vous considériez le message d'aujourd'hui uniquement comme une introduction à la méditation. C'est vaste. C'est puissant. Nous l'avons vu. Lucifer n'allait jamais devenir Dieu. Il n'avait aucune chance. Mais pire encore, il a échoué à penser comme Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés à devenir comme Dieu. Cela exige d'apprendre à contempler, à s'attarder sur nos pensées, à réfléchir sérieusement, à méditer, à réfléchir, à nous fixer des objectifs, à avoir des intentions, à concevoir et à planifier en tournant nos pensées comme Christ et Dieu, et nous devons le faire dès maintenant. Il est clair que la méditation est bien plus que ce que nous pensons.